Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 12 janvier avec Jean-Pierre Michel dans les studios Robert en duplex pour aborder l'actualité internationale, locale et nationale. Eh bien, pour évidemment, avec les derniers événements depuis une semaine, on va forcément commencer par parler un peu de tout ça et de la manif d'hier. Un monde, je sais pas si c'est la plus grosse manif depuis la libération, peut-être, mais c'est même pas sûr. Enfin, en tous les cas, ça fait plaisir aux journalistes de le dire. 250 000 à Lyon, est-ce que c'était ça? Peut-être pas, peu importe. Pour une fois que la police est d'accord avec les chiffres des manifestants, on va pas se plaindre. Mais en tous les cas, énormément de monde. Personnellement, je n'y étais pas. Je n'y étais pas pour cause de divergences politiques et de manque de clarté politique de cette manifestation. On a beaucoup joué sur un émotionnel très fort. Alors, nous sommes en première ligne pour être touchés par cet émotionnel, parce que Cabu, Volinsky, c'est des compagnons de route de 50 ans, pratiquement. Donc voilà, hein, la tristesse elle est là, la révolte, la solidarité avec Charlie, tout ça c'est là. Mais de là à se faire instrumentaliser par Hollande pour faire remonter sa cote de popularité et à se retrouver dans les rues derrière des gens absolument pas fréquentables, surtout sur une affaire de liberté d'expression, de liberté de la presse, il faut quand même pas trop nous en demander, quoi. Ceci dit, nous étions aussi quand même à la première manif de mercredi soir au Terreau, mais voilà. Alors, je vais peut-être laisser mes compagnons s'exprimer aussi là-dessus, puis on dira peut-être quelques commentaires aussi. Si je voudrais tout de suite rendre hommage à un type qui s'appelait Yoav Atab, là, qui est un des gars qui était pris en otage dans le supermarché de Kacher, hein. Et ce mec, quand même, il a eu un courage énorme. Il s'est payé le culot d'essayer de prendre une des armes que l'autre avait laissées à distance et d'essayer de le descendre. Il aurait réussi, évidemment, c'était... Eh bien, en fait, l'autre s'en est rendu compte, l'arme, paraît-il, s'est enrayée, ou il n'a pas su s'en servir, et le pauvre, il s'est fait descendre ipso facto. Lui, c'est vraiment un héros dans cette affaire. Voilà, Michel, tu avais peut-être quelques petites choses à dire aussi?
Non, je crois que je vais vous laisser parler d'abord, vos compagnons de route de 50 ans. Je discuterai à Fred.
Toi, c'est un petit peu moins.
Moi, oui. La route était beaucoup plus.
Mais enfin, compagnons quand même, quoi. Volinsky, oui. Charbre, même si on ne partage pas toutes leurs démarches, leurs idées, on est obligé d'avoir de la sympathie, quoi.
Tout à fait. On a de la sympathie pour l'esprit, pour. ces meubles qui étaient cabus, charbes, etc. Mais bon, on a toujours à travers la gorge un peu de l'effet qu'a laissé Val, comment il a réussi aussi à déteindre quelque peu sur l'esprit de Charlie ces dernières années.
Ah oui, il a fait beaucoup de mal au journal et il en a éloigné des gens, ben comme moi par exemple, à cause de sa démarche. Un truc que je peux dire encore aussi, c'est que le slogan de qu'on voit depuis une semaine est insupportable. Je suis Charlie, c'est gonflant. On n'est pas Charlie, on ne suit pas Charlie du verbe suivre. On soutient la liberté d'expression de Charlie, on est solidaire avec Charlie. Mais si cette identification forcenée, chaque fois qu'il y a un crime, un assassinat, un accident avec les victimes, que ce soit les Américains qui nous ont mis là-dedans avec leurs histoires de tours jumelles en 2011, quoi. Depuis, chaque fois qu'il y a le moindre truc, tout le monde fait sa pancarte « Je suis une des victimes ». Ben non, c'est pas ça. Et ça, c'est quand même très embêtant qu'il n'y ait pas eu plus de démarquage par rapport à ce positionnement-là. Ah, allez, oui. Robert, à toi.
Je commencerai peut-être par ce qui me paraît très très positif. Je pense notamment à la manifestation parisienne qui se voulait naturellement vitrine, comme toujours, pour les médias, pour l'international, avec ce petit groupe de chefs d'État, de ministres, de sous-ministres, de sous-sous-sous-ministres, etc., qui ont fait quelques pas, puis qui ensuite se sont volatilisés dans la nature. Tellement pour certains, ils avaient peur peut-être de se faire canarder par on ne sait où, parce qu'on voyait souvent des visages, notamment il y en avait un qui semblait vraiment, qui était vraiment paniqué, et c'était Netanyahou, il était momifié dans la manifestation, puis il regardait toujours vers les immeubles, il se demandait si on allait lui tirer dessus, mais personne ne lui a tiré dessus. Bon, après, sont arrivés les je parle de la manif parisienne, on essaye de décrypter ça, c'est-à-dire on voudrait se faire plaisir en disant, bon, il y avait la classe politique, quand on ne pense que du mal et pour cause, c'est elle qui nous mène dans la misère, dans les guerres coloniales, post-coloniales, religieuses, etc. Et puis derrière, effectivement, il y avait des masses de gens, la foule. Bon, est-ce que c'était le peuple? Parce qu'il faut bien voir, hein, faut bien distinguer le peuple de la foule. Bon, c'est pas de la sémantique, hein, c'est quelque chose d'important. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, alors c'est de voir tous les absents. Et les absents, eh bien, c'était notamment tous les Amérindiens progressistes. Les Amérindiens progressistes n'étaient pas là. Alors peut-être qu'il y avait quelques sous-sous-ministres, quelques envoyés dans le groupe, mais je veux dire que visiblement, c'est pas, ils sont pas, et c'est pas d'aujourd'hui, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde que les Occidentaux. Et bon, sur deux thèmes d'ailleurs qu'on peut rappeler facilement. Sur le thème de la Palestine, il y a longtemps que les pays progressistes d'Amérique latine sont sans ambiguïté pour les Palestiniens et contre la colonisation. Et puis aussi le thème du rôle carnassier du Fonds monétaire international auquel eux, ils rajoutent facilement aujourd'hui l'Union européenne et la BCE, parce que sont elles qui, en se joignant au FMI, créent la misère en Europe, et puis par ricochet, eh ben, qui créent effectivement des effets boomerang, créent des problèmes dans ces pays de l'Amérique du Sud. Eh bien, c'est bien, ils n'étaient pas là, eh bien, on est content parce que on se dit que l'espoir d'un renouveau et n'est pas dans ce rassemblement BA autosatisfait, même on n'a pas vu effectivement des gens en rajouter trop, heureusement, sur le thème de la France éternelle, la France de toujours, etc. Bon, mais, donc cette France-là dont on ne sait pas trop qui s'est réunie hier et qui demain retourne béatement dans les exploitations dans lesquelles elles sont plongées, dans les misères dans lesquelles elles sont plongées. Donc c'est une image forte. Alors également on peut dire que il y avait peu de représentants africains. Parce que beaucoup de gens confondent.
Mais lesquels?
Les Africains avec les Antillais. Alors il y a des Antillais qui ont le statut de Français, tout ça, qui sont intégrés, bon, et qui sont dans ce genre de manifestation. Mais les Africains, par exemple, du Mali, qui vivent dans les banlieues, dans la banlieue parisienne nord-est, là, ils n'étaient pas là, par exemple. Et puis, ils auraient pu être là, puisque finalement, on prétend que on leur a sauvé la vie, que Hollande est allé là-bas, en Centrafrique et au Mali, pour leur sauver la vie, leur épargner la dictature des islamistes, etc. Et puis aussi, j'ai vu que dans les manifestations parisiennes, et puis peut-être dans les manifestations hors Paris, il y en a peut-être un peu plus de gens qu'on pouvait représenter comme des Français. On va employer ce mot affreux, mais d'origine française, d'origine maghrébine. Dans la manifestation parisienne, il n'y en avait pratiquement pas. Voilà, donc c'est bien que tous ces gens-là n'aient pas participé à cette grande mascarade qui ne va en aucun cas servir à la fois la sortie de la misère pour la planète et puis sortir aussi des guerres qui se perpétuent en notre nom. Et d'ailleurs j'ai vu une foule hier amnésique. On avait l'impression que c'était une foule de gens qui croyaient que dans leur hexagone ils pratiquaient une démocratie, pas forcément égalitaire, mais au moins une démocratie pacifique, et que ça se passait bien et que ce serait dommage que ça ne continue pas, et qui oubliaient complètement l'autre France, celle qui continue à guerroyer, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient dans certains cas. Voilà, c'est un peu. On peut parler longtemps sur les images qu'on retient. Alors moi j'ai puisqu'on il faut un peu dire ce que soi-même, comment on s'est engagé là-dedans. Bon, j'ai participé à deux rassemblements à Fort-Calquier. Alors évidemment, on était 200, 300, et puis un rassemblement un peu plus fort à Manosque, où on était à milliers, mais sur des bases claires. Hein. C'était à partir, par exemple, les rassemblements organisés samedi, c'était à l'appel des syndicats, la FSU et la CGT. Et puis, il est venu beaucoup de monde qui n'ont pas fait forcément attention, on va dire, attention entre guillemets, aux étiquettes. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, c'était une base autrement plus claire et plus acceptable que notamment ce grand rendez-vous parisien qui, comme tu l'as dit, hein, ne servait qu'éventuellement à faire remonter Hollande dans les sondages, et puis à le mettre au centre du monde, la France au centre du monde, et Hollande au centre de la France, donc au centre du monde. Oui. Tout ça, c'est un côté, on pourrait presque en rire, hein. D'ailleurs, On ne sait pas si le journal Charlie, qui va sortir mercredi, va se payer pour ne serait-ce faire que aussi bien Volinsky que Cabu et les autres ne se sentent pas, bon, ils sont morts, mais ne se sentent pas trahis par cette grande mascarade.
Il y a même un journal qui a
voilà,
traité
la
France centre
vous
du monde.
Vous avez d'autres choses à dire.
Michel, tu avais peut-être quelques commentaires aussi.
Voilà, il y a beaucoup de commentaires à faire.
Eh ben, vas-y.
Mais on commencera par quoi? On commencera déjà, oui, par notre président, François Hollande, entouré donc d'une délégation de quarantaine chefs d'État ou de représentants à ses côtés, défilés. Dans cette marche de dimanche, et oui, il faut le dire. Dans le même temps, c'était une image forte, et dans le même temps, c'était complètement ahurissant de voir que tous ces gens-là étaient pour rendre hommage à Charlie Hebdo, journal anticonformiste, antimilitariste, et j'en passe, etc.
Ils n'auraient jamais osé rêver de ça.
Ils n'auraient jamais osé. Et quand on voit effectivement Netanyahou blême en train de regarder à gauche à droite s'il n'y avait pas un tyran embusqué qui allait se payer sa tête, quand on voit Porochenko qui au jour d'aujourd'hui n'a toujours pas dissolu une division, un bataillon de volontaires qui portent des casques nazis avec des SS dessus, hein, qui combattent dans l'Est ukrainien contre les séparatistes dits pro-russes, on croit rêver, quoi, voilà. Quand on voit Ali Bongo, quand j'en passe, enfin bref, et des meilleurs. Et donc tout ça, c'était effectivement une très grande mascarade. Alors on peut pas reprocher aux gens qui, sous le coup de l'émotion, ont besoin de partager. Mais dans le même temps, se pose la question de savoir, moi maintenant, quand j'ai vu effectivement cette masse, hein, aux quatre coins de France et surtout à Paris, ce que j'espère, c'est que demain, lorsqu'il faudra défendre nos libertés individuelles, parce que là on a défendu le droit d'expression, hein, de ce journal avec lequel je ne partageais pas la ligne éditoriale depuis maintenant quelques années, mais pour laquelle j'ai beaucoup de respect, surtout pour quelques anciens. Demain, ça paraît maintenant très très clair, hein, ce sont les libertés individuelles, c'est un Patriote acte à la française, hein, qui va tout doucement nous être proposé par les partis de gouvernement, et on voit déjà, hein, ne serait-ce que ce matin, quelques pontes de l'UMP nous dire que forcer un peu Hollande à mettre ça donc sur les taux. Donc j'espère que les gens auront conscience, hein, qu'ils agiront conscience, qu'ils descendront aussi massivement donc pour sauvegarder leur liberté individuelle.
Alors, petite anecdote aussi, Sarkozy qui a toujours de mauvaises fréquentations, les médias nous sortent ce soir qu'il existe des documents, des photos ou des films, je ne sais pas, où il est en compagnie de Koulibaly.
Oui, voilà, tout au contraire, mais bon, aussi sur ces les Kouachi, Koulibaly, apparemment, qui ont déjà eu l'honneur de serrer des mains de personnalités de premier plan ou de passer dans quelques reportages vus par le plus grand nombre, c'est juste rappeler que c'est pas un phénomène extérieur, ce sont des personnes qui sont françaises et qui d'origine étrangère, mais comme une grande majorité d'entre nous, et qui ont été pris dans ces tourments, mais avant tout, voilà, c'est des jeunes à la dérive, et qui en sont arrivés là où ils en sont à devenir donc des assassins, des criminels. Donc le problème du terrorisme qu'on a aussi dénoncé hier, hein, du moins nos officiels, c'est un problème qui est intimement français, quoi. C'est le problème, et on le voit, hein, c'est le problème. Tu évoquais tout à l'heure, c'est la foule ou c'est le peuple. On peut se poser la question, est-ce que la masse, 3 millions de personnes et plus, est-elle vraiment représentative du peuple de France, des peuples de France? Je ne sais pas, enfin, avec du recul, quelques sociologues pourront nous dire effectivement ce qu'il faudra en penser. Mais toujours est-il que sur le chantier, financier pour combattre le terrorisme, il ne suffit pas d'armer des rafales et de les envoyer dans le Golfe et de s'attaquer à l'organisation de l'État islamique. Ça commence effectivement par l'intégration donc de tous ses concitoyens sur le territoire national. Et là, on le sait, hein, tous les sociologues, les politiques n'arrêtent pas de nous le répéter, c'est un chantier maintenant qui a plus de 30 ans, et rien, absolument rien n'est fait.
Donc ça bloque, et ça finit par se traduire comme ça. Dernier point que je voulais souligner, la reparution de Charlie. Ben pour moi, je trouve aussi, décidément, c'est, je ne fais pas exprès, mais il nous tombe dessus avec ça, c'est une erreur, parce que Charlie est mort. À partir du moment où il y a 5 ou 6 de ses représentants historiques, il y en avait déjà un certain nombre, comme Cavana, GB, Rezer, qui était mort bien avant, ils sont tous là, et ce journal est fini, quoi. Alors qu'on recrée un autre journal avec un autre nom et qu'on redémarre aussitôt, oui, qu'on garde le nom de Charlie pour une équipe qui n'est plus celle qu'il avait majoritairement animée, ben ça, je pense que c'est indécent et un manque de respect par rapport aux gens qui sont morts, là.
Je pense, tu sais bien que ce que tu évoques, effectivement, ce point de vue, on n'est qu'au début de nos surprises. Parce que déjà, il y avait quelques voix dissidentes, hein, chez Charlie, qui ont par exemple refusé de manifester, comme Willem, Luz, entre autres, qui dénonçait un peu le côté complètement ahurissant d'une manifestation de cet ordre-là, avec notamment les personnalités de premier plan comme Netanyahu ou Bongo et j'en passe, qui étaient là. Et on verra, hein, aujourd'hui, que maintenant que le brand Charlie est connu aux quatre coins du monde, hein, il est fort à parier effectivement que certains cherchent à le récupérer coûte que coûte, et que ce qui reste, hein, des pièces maîtresses, pour pas dire des fondateurs, risque effectivement de partir au compte-gouttes, et cet hebdomadaire ou ce mensuel, demain on sait pas, hein, on a vu d'autres, hein, qui sont totalement transformés, risque de rester parce que la marque est maintenant tellement forte qu'il y en a très bien qui ont saisi l'intérêt qu'il y a de le faire perdurer coûte que coûte.
Allez, courte pause musicale et on reprend notre canuf. Je ne veux pas mourir idiot. Je ne veux pas mourir idiot.
Baron est mort pour rire. Dario est mort pour de bon. Charles n'a plus pour longtemps. Elle vient se surmène. Ça pense qu'il y a des gardes du corps. Marcelin fait pas de câlin. À Dijon, les jusqu'à ce que le général déclarait dans son discours de fin, j'ai le cœur plein d'espoir. Un discours du général d'autre part à la télé, c'était vraiment original, j'ai passé de le regarder, elle dit que la France était montée si haut pendant 10 ans, que c'est à cause du vertige, qu'est-ce que ça gueule maintenant.
Un truc complètement déjanté, une rareté discographique bien sûr, c'est un texte de Volinsky, tout simplement, 1969, « Je ne veux pas mourir idiot », il avait fait une pièce de café-théâtre montée par Claude Confortet, c'est le chanteur Évariste, les 68 ans le reconnaîtront, qui interprétait le morceau. Vous écoutez toujours Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 12 janvier 2014, bientôt une semaine après la disparition des Charlie Boy. Et nous abordons la rubrique internationale. Ben, elle est pas mal escamotée dans l'actualité des médias par les événements dont on vient de parler avant. Il y a quand même des sujets qu'on peut aborder. Michel, t'en as un en tête.
On peut déjà parler, effectivement, pour parler un peu de choses un peu plus, comment dirais-je, conventionnel en politique étrangère. Oui, oui. Les élections présidentielles en Croatie qui ont vu au second tour la candidate du parti donc HDZ, donc de l'Union démocratique croate, qui est un parti nationaliste, hein, de droite, hein, pour pas dire d'extrême droite. Donc sa candidate Kolinda Grabar-Kitanovic l'a emporté, à la grande surprise générale, face à Ivo Josipovic, qui était le président sortant, donc social-démocrate, hein, qui était le candidat de l'Union de gauche. Et c'est une surprise, parce que Josipovic, compositeur, homme très pondéré, avait dans une cote de popularité très élevée dans l'opinion publique en Croatie. Kolinda Grabar-Kitarović, c'est une personnalité diplomate de formation, qui a passé son enfance, son adolescence aux États-Unis, qui a eu pour fonction, entre autres, hein, d'avoir été ministre des Affaires étrangères de Ivo Sanader, l'ancien président croate il y a une dizaine d'années, qui est aujourd'hui croupé en prison, hein, pour corruption, malversation. Et qui a été aussi secrétaire adjoint de l'OTAN et ambassadrice de Croatie à Washington, ce qui, effectivement, vu son passé, où elle a passé son enfance, la rapproche très fortement du département d'État, de la diplomatie des États-Unis. Elle a eu une dure, Kitarović, concernant donc le rétablissement des relations avec les anciennes républiques ex-Yougoslaves, et notamment avec la Serbie. Autant Josipovic avait réussi donc à nouer des contacts, et des contacts qui étaient maintenus à un très haut niveau avec les différents partenaires de la région, autant Kitarović, dès lors qu'elle a été donc élue, a fait comprendre que elle s'emploierait à barrer la route, par exemple, à la Serbie dans son intégration dans l'Union européenne, et qu'il en est de même, effectivement, concernant la politique la politique intérieure de la Bosnie, qu'elle défendrait coûte que coûte les intérêts donc de la minorité croate qui y vit. Enfin, c'est juste pour finir que depuis la dernière réforme, la fonction présidentielle n'a plus autant d'importance qu'elle en avait, donc comme autant de Franjo Tudjman, le premier président de la Croatie indépendante depuis la réforme, et donc c'est un vrai test pour les élections législatives qui vont avoir lieu en fin d'année, où en l'état actuel des choses, les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir sont donnés perdants. Alors, juste remettre un peu en perspective le pourquoi de ce revirement. La Croatie a intégré l'Union européenne, c'est le 28e pays membre, hein, depuis le 1er juillet 2013, et la situation va de mal en pire. 25% de chômage, taux officiel, 45% chez les jeunes de moins de 26 ans. Une industrie qui est laminée, des chantiers navals qui ont été obligés de fermer, car l'Union européenne avait posé comme condition que l'État ne subventionne plus, hein, alors qu'elle était fournisseur d'emploi, donc de longue date, hein, sur la côte dalmate, à Rijeka et notamment à Split. En gros, donc, un mécontentement généralisé dans la population croate qui, finalement, s'est vu à travers le premier tour, puisque un jeune candidat, Ivan Vilibor Sinčić, qui a à peine 24 ans, et qui est anarchiste, avait recueilli 16,5% donc des voix donc le 28 décembre dernier au premier tour, ce qu'il faut quand même noter, hein, parce que c'est pas à travers tous les pays de l'Union européenne que on a un candidat anarchiste qui puisse faire autant de voix. C'est dire effectivement le mécontentement. Donc Sinčić n'avait pas donné de consigne de vote, hein, pour le second tour, et de fait la candidate dure, donc Kitarović, donc a eu le candidat Kujundžić, qui représente vraiment l'extrême droite, hein, qui avait fait 5% au premier tour, qui a reporté ses voix sur elle. Juste aussi à signaler que ça s'est joué à 30 000 voix près. Hein,
ouais, elle est passée au ras des pâquerettes. Hein,
c'est vraiment une surprise, hein, parce qu'on attendait vraiment Josipović, hein, qui avait vraiment très grande cote. Et que malheureusement, en l'état actuel des choses, on risque d'avoir un durcissement des relations entre les différents États de l'ex-Yougoslavie pour les années à venir.
Voilà pour ce sujet. Robert, tu voulais intervenir sur quelque chose, ou je te donne des idées si tu n'en as pas? Espagne, après.
Cette semaine devrait voir reprendre les discussions à propos de la situation de l'Est de l'Ukraine et plus globalement des rapports entre la Russie et l'Europe les États-Unis. Alors, ça se décline, il y a des réunions de ministres des Affaires étrangères, le ministre des Finances. Le FMI, un jour, il fait savoir qu'il donne 5 milliards, un autre jour, il dit que c'est 10, puis après, on apprend que c'est 2. Bon, enfin, bon, ça, c'est pas très clair, mais on comprend bien qu'en fait, il y a une politique de dessous de table qui n'arrive pas jusque dans les médias, qui d'ailleurs ne sont pas très curieux sur ce genre de tractation concernant l'Ukraine. Y aura-t-il une rencontre Porochenko-Poutine cette semaine, comme ça avait été annoncé, dit à la fin de l'année dernière? Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas lu d'informations qui permettent de dire que cette rencontre va avoir lieu. Les Européens vont se rencontrer, d'ailleurs avec les Ukrainiens, puis peut-être invitera-t-on le ministre des Affaires étrangères russe et américain. Je ne sais pas si là-dessus vous avez sur l'Ukraine plus de choses à dire.
J'ai pas d'informations particulières donc sur les rencontres qui sont prévues entre Russes et Ukrainiens. Juste rappeler que le cessez-le-feu tout relatif a été rompu hier, où il y a eu des bombardements autour de l'aéroport de Donetsk.
Il y a eu un sommet qui est prévu au Kazakhstan jeudi avec les Allemands, non? Avec les Ukrainiens et les Allemands.
Alors, j'ai pas cette information.
J'ai vu ça, mais je n'ai pas de détails.
En ce moment, effectivement, le grand jeu de la diplomatie occidentale, c'est essayer de diviser le bloc pro-russe, hein, si on peut dire, à savoir la Biélorussie et Kazakhstan, qui sont les deux grands pays en ancienne république soviétique qui ont des relations privilégiées avec la Russie, et essayer à travers donc malgré le fait que, rappelons-le, hein, ce ne sont pas deux démocraties, hein, la Biélorussie de Loukachenko ou le Kazakhstan d'Azerbaïev, mais en tout cas, la diplomatie va dans ce sens-là, d'essayer d'isoler la Russie au niveau diplomatique. C'est ce qu'a fait notre président, hein, il y a quelques semaines, en se rendant à Astana, en forçant quelques contrats juteux qui pourraient être intéressants et qui donnent en même temps un semblant de respectabilité à ce qui sont finalement deux régimes durs, pour pas dire dictatures.
À propos de la Russie, une information qui est marginale bien sûr, mais quand même, il y a une loi qui vient de sortir, paraît-il, en Russie, qui interdit aux travestis et aux transsexuels de conduire une voiture. Alors le motif, ben, c'est tout simple, c'est qu'il est interdit de conduire un véhicule aux personnes présentant des troubles mentaux ou du comportement. Ils sont gratinés, les Russes. Hein. Bon, s'ils appliquaient la même règle à l'alcool, on serait mal, hein, il n'y aurait plus une voiture.
Non, mais si.
Bon, je ne sais pas comment ça peut, mais c'est incroyable qu'ils en soient là. Quoi. Enfin. Autre sujet, ben, la présidence de l'Union européenne, la Lettonie, là, le 1er janvier, la semaine dernière pratiquement, a pris la présidence de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un pays balte, ex-démocratie soviétique, donc, prend cette fonction avec des belles ambitions en matière d'une Europe compétitive, d'une Europe numérique, d'une Europe engagée dans la politique mondiale. On va voir si la Lettonie et son président arrivent à peser de leur poids dans cette opération. Robert, autre sujet, l'Espagne peut-être ?
Non, je te laisse continuer.
L'Espagne, ben, y a ce projet de Arab Atasuna qui commence avec quand même une trentaine de personnes, dont deux Françaises, qui sont impliquées pour avoir dit en Espagne des choses qui étaient parfaitement légales en France, mais qui, là-bas, relèvent de la justice. Et tout ça à un moment où, à Bilbao, il y avait hier une manifestation de quelques dizaines de milliers de personnes, on parle de 80 000, qui réclamaient le rapprochement des prisonniers au Pays Basque, puisque actuellement, par une volonté peut-être de pénalisation, et puis peut-être avec un sens pratique, c'est pas sûr, mais en tous les cas, les familles des prisonniers payent lourdement le fait de devoir faire des grandes distances pour rendre visite à leurs prisonniers. Il en reste 460 actuellement dans les prisons espagnoles. Voilà, pause musicale, vous
peut-être,
voulez
peut-être
aborder
simplement oui. Rappeler qu'on va pouvoir, après cette grande parenthèse, on va dire, dramatique, parler de ce qui crée un drame chez tous les détenteurs financiers d'Europe et d'ailleurs, c'est les élections grecques du 25 janvier. Donc on est à moins de deux semaines de ces élections. Alors, on ne sait pratiquement peu de choses de comment se déroule la campagne, parce que d'une part, ben, ça, comme on l'a dit, cette diversion dramatique arrangeait bien les choses, puisque ça permettait de effectivement ne pas se pencher sur le grand malade. Pour le monde capitaliste que constitue la Grèce et sur les risques pour ce monde capitaliste de se voir recevoir une claque le 25 janvier. Mais on a donc encore deux semaines pour évoquer, pour espérer que les médias feront correctement leur travail sans parti pris, ce qui, naturellement, ne sera pas le cas.
Oui, juste à dire que le candidat, donc le Premier ministre Samaras, a présenté son programme, hein, et en gros, il promet, bon, sans avoir parlé ouvertement donc d'austérité, mais en gros, qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer, hein, si ce n'est il promet des réductions donc d'impôts. Hein, mais, des réductions d'impôts, finalement, lorsqu'on l'interroge, et il s'avère que ces réductions donc seront soumises quand même à ces bailleurs de fonds, hein, entre autres à Bruxelles, l'Union européenne, qui décidera donc si ça peut être le cas. En tout cas, pour l'instant, rien de nouveau. Donc, Samaras leur promet la continuation de la politique d'austérité. Alors, je ne sais pas tant, parce que c'est vrai, je n'ai pas trop d'informations en ce moment sur ce qui nous vient d'Athènes, mais il est clair que les médias, qui sont quand même aussi tenus par des grands groupes, font campagne en vue du statu quo, à savoir que Samaras soit réélu et que rien ne change. Alors, est-ce que la démocratie réelle, hein, celle d'un homme une voix, va peut-elle permettre de renverser, donc de faire tomber ce gouvernement et sa clique médiatique, on le verra bien, mais il est clair que pour l'instant les pressions sont très fortes, hein, la pression de Merkel, hein, on en a parlé la semaine dernière, et la pression de Juncker et d'autres qui ne manquent pas de dire que par avance que si jamais donc Syriza est élu, il est hors de question donc de renégocier quoi que ce soit. L'autre aspect, c'est Syriza, selon les sondages, est en tête, mais ça ne lui garantit aucunement donc d'exercer le pouvoir tout seul. Donc il y a fort à parier aussi que ce soit un gouvernement de coalition qui sorte de ces élections du 25 janvier.
Allez, pause musicale avec un morceau, c'est pas très original parce que le morceau fait le buzz sur internet. Florian J. Simard a détourné la chanson Hexagone de Renaud pour en faire une chanson Charlie.
J'ai pas peur de toi l'extrémiste, viens descendre nos journalistes. Toi tu passais pour un croisé en butant nos gardiens de la paix. Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles pendant qu'à faire il t'implorait. C'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, tu salis ta religion. Partir en Syrie, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? T'es-tu vraiment senti menacé par un crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Tu salis ta religion. Il débarque froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences, il fait la beauté de la France, mais toi ce matin t'as tout gâché, c'est la haine que tu as semé. Si tu te demandes où est Charlie, tu salis ta religion. Je m'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la guerre qu'il y a là-bas, t'es content qu'il y ait des caméras. Ne viens pas me parler de religion, cette excuse est complètement bilan. Je pense pas qu'il existe de bouquin qui dise de flinguer son prochain. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Prends le coup de crayon, tu salis ta religion. Même si j'ai envie de crier aux armes, je mets pas tout le monde dans le même panier. C'est en partant d'un amalgame qu'on fabrique des croix gammées. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est debout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo.
Florian J. Simard qui va acquérir la célébrité avec une chanson, celle-là. Il était d'ailleurs hier soir sur la 2. Ah, il y en a un qui a dû se retourner dans sa tombe, c'est Chancel. Là. Ils ont fait un de ses grands échiquiers pendant 3 heures, un peu plus de 3 heures, dans le plus pur style des grands échiquiers de Chancel. On a eu un hommage à Charlie. C'est pas tout négatif d'ailleurs. Bon, rubrique nationale de Scanu Info du 15 janvier 2014. Bon, plusieurs sujets, évidemment, l'actualité aussi est un peu effacée par les grands sujets, mais Alors à la CGT, le parent a fini par jeter le gant, hein, mais il est toujours sur le ring et il essaie de placer les 10 personnes qu'il propose au Parlement de la CGT, qui cependant ne sera pas tenu d'accepter sa liste, peut en proposer une autre, peut aussi mettre une équipe de sages du syndicat jusqu'au prochain congrès en place. À suivre donc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la loi Macron entre en discussion dans les commissions de l'Assemblée nationale. La loi Macron, c'est beaucoup de vacheries pour les travailleurs, c'est les autocars qui prennent la place des trains, soi-disant, c'est le dimanche travaillé, c'est les professions réglementées, ça, ce serait peut-être pas mal, mais vous allez voir que ça va passer à la trappe quand la loi aura été votée. Pour le moment, il y a 106 articles et il y a déjà 1600 amendements. Donc ça promet du plaisir aux parlementaires. Robert,
on avait... je crois que c'est Duflo, Cécile Duflo, qui avait dit « Cette loi va nous faire reculer de 50 ans au niveau des acquis sociaux. C'est confirmé. Enfin, elle a été décortiquée et effectivement, son contenu... Alors, maintenant, la gauche du PS et puis le Front de Gauche et puis les Verts espèrent casser cette mécanique réactionnaire, mais ils sont pas sûrs d'y parvenir, d'autant que maintenant, avec un Hollande et un Valls confortés par leur women show de ces derniers jours, vont faire le maximum pour là aussi vouloir dire unité nationale.
Allez, social encore, si on peut dire, la grève des médecins continue, elle a fait les frais, effectivement, des grandes manifestations de ces jours. Pas que je baisse le micro, là. Je ne vous cache pas que j'ai des soucis de table de mixage. Les auditeurs doivent s'en rendre compte, mais je ne les réglerai pas avant la fin de ce journal. C'est évident. Les anciens de Cifrance qui ont constitué une SCOP se voient barrés par la justice anglaise qui leur interdit de débarquer à Douvres au titre que, lié à Eurotunnel, ils seraient en dehors des règles de compétitivité. C'est beau, les règles de la concurrence. Et donc leur entreprise, My Ferry Bank, est contrainte d'arrêter son activité. Il y a déjà eu une casse sociale énorme, il risque d'y en avoir une deuxième. Il faudrait qu'ils rachètent les 3 navires qu'ils utilisent, ce qui est complètement en dehors des moyens de la SCOP, évidemment, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre? Mais il y a eu une manifestation avec pas mal de monde à Paris samedi, je crois, de Kurdes qui protestent pour obtenir la vérité sur les assassinats qu'ils attribuent facilement et sans doute pas gratuitement aux services secrets turcs des personnes qui avaient été tuées il y a 2 ans dans les locaux de l'ambassade, quoi.
Avec une demande, parce que ces militants qui ont assassiné étaient plutôt dans la mouvance du PKK et une demande en même temps que les pays occidentaux sortent, enfin les États-Unis en tête, sortent le PKK des organisations terroristes, surtout en ce moment où le PKK fournit des soldats à Kobané pour combattre le califat.
Voilà. D'autres sujets, Michel, tu souhaitais aborder?
Pas rien de particulier en dehors de ces grands événements qu'on a commentés.
Robert non plus.
Oui, je me disais, avec cette... je crois que ça a été voté par... en Europe, pour le moins, chaque pays peut procéder à des interpellations. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce texte sur l'ordre d'un juge sur la base de délits de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, bon, crimes contre l'humanité. Et je me disais que, il me semble, mais je me souviens plus, il me semble qu'il y a en France des juges qui ont acté dans ce sens-là à l'encontre des Israéliens, enfin essentiellement des militaires, mais aussi des politiques. Et je me disais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un mandat d'arrêt hier délivré contre Netanyahou. C'était l'occasion de mettre la main dessus et puis effectivement d'arrêter ce scandale qu'a constitué sa présence. Et il est encore là aujourd'hui. Il était toujours là, Netanyahou. Bon, alors évidemment, Hollande, vous avez vu la composition de la première ligne. Alors, Hollande au centre, à gauche, enfin, quand on regarde la première ligne, à gauche, eh bien, il y avait Boubacar, le Malien. Après, il y avait Netanyahou. Bon, et on passe de l'autre côté. Alors, à droite de Hollande, il y avait Merkel. Et ensuite, il y avait Abbas. C'est-à-dire que finalement...
Ils ont mis à distance. Hein.
Il les avait mis à égale équidistance de lui-même. Enfin, c'est dérisoire hein, comme manière de penser la diplomatie.
Il fallait bien ménager les susceptibilités des uns des autres. Et si Abbas était là hier à Paris, avant tout, c'est parce qu'il attend aussi de la France, hein, de la diplomatie française, qu'à terme elle reconnaisse aussi l'État palestinien, donc il était aussi en représentation. Quant à Netanyahou, donc il a eu quand même le toupet donc d'appeler nos concitoyens donc d'obédience israélite donc à faire leurs valises et aller chercher la sécurité dans ce beau pays qui est Israël. Donc bon, et sur ce il a été repris, mais quand même de manière très très polie, hein, par nos responsables. Donc c'est ça qui est complètement honteux. Donc juste à rappeler à ce fait, si chaque année des milliers donc de Français juifs partent s'installer en Israël, hein, ils vont faire leur alia, leur montée, comme on dit. Ce qu'on omet de dire, c'est que chaque année, il y en a aussi des milliers qui rentrent, qui reviennent en France. Hein. En partant en Israël, d'aucune manière, ils brûlent, ils déchirent leur passeport. Ils gardent leur nationalité française, ils sont binationaux. Donc n'oublions pas non plus cet effet tout bête. Hein, comme il y a 80 000 Français en Grande-Bretagne, c'est pas pourtant qu'ils oublient la France. Hein. Régulièrement, ils rentrent au pays. Et il en est de même avec donc nos concitoyens juifs qui vont s'installer pour telle ou telle raison en Israël. Donc faut pas non plus paniquer. Les Juifs sont plutôt en sécurité et c'est une communauté qui prospère dans notre nation.
Voilà, ce Canet Info se termine. Il sera rediffusé demain matin. Vous devriez pouvoir le retrouver sur Internet rapidement, surtout si le petit enregistreur numérique veut bien l'imprimer sur ma clé USB, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, on y arrivera de toute manière. On a 36 manières de récupérer nos informations. Bonne soirée à nos auditeurs. Ne quittez pas l'antenne. On va changer un peu de sujet, mais le document, l'entretien que nous vous proposons d'entendre est quelque chose de très fort. Bonsoir, et on se quitte avec une autre chanson. Hommage aussi à Charlie par un groupe qui s'appelle Trio, tout simplement.
Le monde a changé, Charlie, c'est ce qui t'a tué, Charlie, c'est pas Mahomet. C'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie. Mais ta liberté, chérie, elle est immortelle. Tu la vois du ciel, elle. Le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta fille, Charlie. Mais par tes idées, Charlie. On va les chanter, mon frère. Et ces cons vivront l'enfer d'un monde libre.
libéré, Charlie, où on peut se marrer aussi.
Au milieu du vacarme, du djihad et des armes, il reste de la culture, l'humour et la nature.
Voilà, Charlie, aujourd'hui et demain,
c'est dit à grands coups de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu gris. Je suis plus fort que toi, petit, la honte d'Allah. C'est dit, quand il te regarde, il pleure pour toi, il se frotte la barbe et il te comprend.